Pour ce deuxième dimanche de carême, où nous continuons à explorer la vertu théologale de l'espérance, nous avons cette rencontre avec le transfiguré, une des très très belles pages de l'Évangile. Toutes les pages de l'Évangile sont très très belles, bien évidemment. Mais celle-ci vient nous révéler une dimension fondamentale de qui est le Christ et qui est l'humain. Il emmène donc trois de ses disciples avec lui sur la montagne, et là, il est transfiguré. C'est-à-dire qu'il a ses vêtements qui deviennent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille, nous dit saint Marc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lumière, cette blancheur, n'est pas de ce monde. Donc, elle est de l'autre monde, le monde de Dieu. Je voudrais vous citer un passage du catéchisme de l'Église catholique. Alors je sais bien que souvent dans nos têtes, dès qu'on dit catéchisme, ça fait ringard, rabat-joie, il fallait apprendre par cœur, on se fait taper sur les doigts et ainsi de suite, on le voit en négatif. Or, le catéchisme de l'Église nous permet de clarifier notre foi, de mieux comprendre la profondeur de ce que nous professons, nous permet d'argumenter, de faire du tri dans tout ce qui se passe dans nos têtes ou dans nos cœurs, et que parfois le mal nous apprend à embrouiller. Or là, le catéchisme nous permet de poser les choses. Voici ce qu'il nous dit sur l'espérance. Et vous allez entendre dès le départ que c'est quelque chose, il y a un choix à faire. Je n'écoute pas un beau texte ancien, je ne suis pas sur une belle page culturelle ou je ne sais quoi. Je suis avec la parole de Dieu. C'est un choix fondamental de base. Sinon, je mets tout au même niveau et voilà, je ne suis pas chrétien. On a le droit, il n'y a pas de souci. Mais le chrétien, c'est celui qui reconnaît que la Bible est la parole de Dieu. Et voici ce qui est dit de l'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Voilà cette espérance qui nous permet de traverser toute cette existence terrestre, c'est de nous retrouver dans le royaume des cieux pour la vie éternelle. Oui, je crois que ma vie ne se termine pas. Dans notre société où ceux qui sont les plus, à ce qui paraît en avance, de vouloir faire grandir l'être humain, ce qu'on appelle le transhumanisme, qui fait que l'humain va se développer par lui-même. Là, il est bien dit, ce n'est pas par nos forces. Mais ces gens-là qui vont dans le transhumanisme, ils espèrent rallonger la vie. Comme si la vie pour eux se finissait, quoi. Et il faut surtout ne pas mourir. Or, il n'y a aucun problème à mourir. Puisque la mort est un passage qui nous permet d'aller justement dans cet autre monde. La mort est nécessaire pour vivre pleinement. Et alors, je suis toujours frappé, étonné, voire déçu, voire parfois presque en colère, quand j'entends des chrétiens qui me disent « De toute façon, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. » C'est-à-dire derrière la mort. Comment peut-on dire ça quand on est chrétien? Mais c'est fou, ça! Le Christ, là, nous révèle quelle est son identité, quelle est son essence. Il est un être de lumière. Osons nous rappeler le prologue de l'évangile de saint Jean. En lui était la vie, Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. La parole était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Voilà, le Christ est notre lumière. Bien évidemment, le jour que nous nous réveillons d'un cauchemar, au bout d'un moment, on allume la lumière pour y voir clair, pour trouver du sens. Lorsqu'il y a une coupure d'électricité, vite, 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 on va chercher la bougie. J'ai besoin de lumière pour avancer dans ma vie. Les ténèbres dont parle Saint Jean, au tout début de son évangile, c'est bien la question de la difficulté de l'humain, de qu'est-ce que je fais dans cette existence. Et le Christ, il est là pour nous rappeler cela. Il est là pour nous dire, votre chemin n'est pas une impasse. Il faut oser aussi se rappeler de Saint Paul aux Galates. Il dit quelque chose de très fort, de très puissant, peut-être on n'écoute pas suffisamment, car il nous donne l'objectif de notre vie. Voici ce qu'il dit au chapitre 4. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Avoir cela comme ligne de mire, comme destination, comme aiguillon qui nous tire en avant, et me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette vie ? À venir à la plénitude de la stature du Christ. Un de mes confrères dit qu'il est un peu étonné que beaucoup en ce moment on parle de devenir Dieu, être divinisé, hein, le Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il dit, en fin de compte, pour moi c'est davantage être christifié, c'est-à-dire participer à la vie du Christ, hein, à la plénitude de la stature du Christ. J'ai à me laisser façonner, parce que c'est l'Esprit Saint qui le fait, à me laisser façonner, devenir Christ. C'est même Saint Paul qui le dit, vous êtes Christ. Nous sommes le corps du Christ. Voyez-vous, quand on est là avec l'évangile de la Transfiguration, où on voit Jésus lumineux, on comprend quelle est notre route. Nous avons donc à avancer vers cet état de lumière. Le Christ, pour bien nous apprendre cela, nous dit aussi, à un autre moment, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous serez la lumière du monde, comme si c'est quelque chose qui sera futur. Non, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et ne croyons pas que nous, les chrétiens, on serait les seuls à être la lumière du monde vis-à-vis des autres qui seraient dans les ténèbres. Quoi qu'il y ait une responsabilité à assumer. Mais nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Comme Dieu est lumière, chaque être humain est lumière du monde. La grâce particulière du baptisé, c'est celui qui a pris connaissance qu'il est enfant de Dieu, qu'il vient de Dieu et qu'il est créé à son image et que nous avons toute notre vie pour avancer vers cette ressemblance. J'ose une petite comparaison qui a vite ses limites, mais quand même. Si je vais au restaurant, bon, je vais bien manger, c'est sympathique. Oui, d'accord, je mange, en tout cas je suis alimenté. Si c'est quelqu'un qui m'invite au restaurant, je vais d'autant plus l'apprécier parce que c'est lui qui m'invite. Et donc il m'offre quelque chose. Je sens que ça vient de lui, même s'il se sert de quelqu'un d'autre pour me nourrir. Mais c'est déjà une joie. J'oserais presque dire, ça pourrait être les saints. Les saints durant toutes les générations qui sont là, des signes qui nous disent, « Hé, c'est Dieu qui te nourrit. » Mais c'est d'autant encore plus meilleur, excusez-moi, d'autant plus meilleur lorsqu'on est chez quelqu'un et que c'est ce quelqu'un qui nous a préparé un bon repas. Alors là, on a la joie et on voit les yeux qui pétillent parce qu'il a pris du temps pour moi. Eh bien là, je suis carrément dans la communion avec Dieu qui me dit « Je suis ta nourriture. Je veux être en communion avec toi. Je veux vivre de toi. » Voilà, qu'il y ait ce lien. Viens vivre. Et alors, c'est une autre dimension que simplement d'être alimenté. Là, je participe à un véritable repas de communion. Avoir cette responsabilité d'être lumière du monde pour le monde, c'est assumer cela. Je sais qui est ma lumière. Je sais qui est à l'origine, c'est le Christ. Notre responsabilité, c'est de faire attention si notre propre lampadaire n'est pas un peu trop crasseux, pris par la pollution, pris par la poussière, et que du coup, on n'aurait plus qu'une toute petite lueur. Notre responsabilité, c'est d'éclairer ce monde, de dire quelle est la beauté de notre foi. Et à travers notre foi, bien évidemment, c'est la beauté de notre Dieu. N'ayons pas peur d'éblouir, parce qu'on n'éblouit pas quand on est avec la lumière de Dieu. Nous éclairons, nous réchauffons, mais nous ne brûlons pas. C'est avoir cette simplicité de dire « je participe à l'œuvre de Dieu ». Bien évidemment, nous pourrions avoir cette tentation comme Pierre de dire « oh, c'est magnifique ce que nous vivons là, restons là ». Et non. Jésus leur dit, on va pas rester là avec nos trois tentes. Il nous faut redescendre vers le monde. C'est le monde qui a besoin de la lumière. Est-ce que durant ce temps de carême, tu es prêt à te dire, j'ai quelque chose à apporter aux autres? Et enfin, dernier petit point qui est fort étonnant. Alors qu'ils sont quand même avec Jésus depuis plusieurs années, qu'il leur a parlé plusieurs fois de la résurrection, et là, on s'aperçoit qu'ils se demandent, les disciples, ils se demandent entre eux, ils n'osent même pas lui en parler à lui, qu'est-ce que ça veut dire que d'être ressuscité d'entre les morts? C'est-à-dire, je ne comprends pas encore tout de ce que c'est que la résurrection. Mais je sais qu'elle est là. On aurait pu aussi se dire, pourquoi Jésus ne se montre-t-il pas transfiguré à tout le monde, d'abord à tous ses disciples et à tout le monde? Là encore, une autre petite comparaison. Si j'ai un casse-tête devant moi, bon, je suis là en train de buter, je cherche, j'explore des solutions et tout ça. Bien sûr, ça peut m'agacer, ça peut peut-être me décourager. Mais le seul intérêt d'un casse-tête, c'est de trouver la solution par soi-même. Si c'est quelqu'un d'autre qui vient me la donner, il n'y a plus aucun intérêt et je n'ai pas développé toutes mes capacités de compréhension. Donc je reste bête sur un certain point. Je n'ai pas exploré ce qui est en moi. Le fait de ne pas avoir la solution m'oblige à creuser, à chercher. Là aussi, c'est l'espérance. Je sais que je vais trouver le chemin. Le Christ ne se révèle à ces trois-là pour leur dire « Oui, c'est une réalité. Oui, la vie, elle continue après la mort. Oui, nous sommes vraiment des lumières. Oui, nous avons réellement à vivre en Dieu, en Christ. Mais nous avons chacun à trouver notre chemin. » Alors, nous pouvons encore rester avec des questions comme ces trois disciples. Malgré la vision qu'ils ont eue là, de voir le Christ transfiguré, de se poser encore la question, qu'est-ce que c'est que d'être ressuscité d'entre les morts? Qu'est-ce que ça va être cette vie après la mort? Parce que c'est au-delà des apparences, au-delà de l'évident, quand on est mort. Eh bien non, la foi chrétienne nous le dit très clairement, après la mort, il y a la vie. Osons redescendre au monde, aimer le monde comme le Christ l'a aimé, pour offrir l'amour de Dieu, cette lumière de Dieu, à tous nos contemporains. Bon chemin de carême.